Prions ensemble. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci de ce que tu as voulu que nous nous trouvions ensemble en ce moment, avec la possibilité d'ouvrir ta parole et de nous laisser enseigner par ton Esprit Saint, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta parole, Seigneur, car elle est la vérité. Une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Seigneur. Par elle, nous pouvons nous laisser guider. Nous pouvons fonder notre vie sur ta parole. Seigneur, nous ne la prenons pas comme simplement un texte légèrement inspiré. Nous pensons qu'elle est vraiment complètement inhérente, sans erreur, dans les textes originaux, Seigneur, que nous n'avons pas, mais que nous pouvons reconstituer à 99%, Seigneur. Merci parce que ces vieux textes, nous parlons du livre de l'Ecclésiaste écrit par le roi Salomon, près de 1000 ans avant notre ère, Seigneur, c'est 800 ans avant notre ère, ce sont des textes qui sont toujours pertinents pour l'homme moderne, les femmes et les hommes modernes que nous sommes, entre guillemets, Seigneur, modernes. Notre vieille nature ne change pas si ce n'est toi qui viens la transformer, Seigneur. Et il suffit de voir ce qui se passe autour de nous et bien souvent dans nos cœurs pour comprendre que ce que l'Ecclésiaste nous dit, c'est toujours d'actualité, Seigneur. Nous voyons tout autour de nous des personnes, des êtres humains qui vivent simplement sous le soleil, c'est-à-dire sans égard pour la réalité et la vérité, l'existence présente d'un Dieu qui a créé les hommes et qui les aime, Seigneur, mais qui ne peut pas tolérer leurs péchés, Seigneur, et qui a ouvert une voie en Jésus-Christ pour que nous venions à la repentance, au pardon, acquis par le sang versé par Jésus à la croix, Seigneur. Aide-nous à toujours être davantage conscients de ces vérités, Seigneur. Aide-nous à partager ces vérités avec ceux qui nous entourent. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous te demandons de nous aider ce matin à comprendre ta parole. Des sujets tellement importants, Seigneur, qui bien souvent sont la source de bien des malheurs pour l'homme moderne, Seigneur. Merci parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, la permanence de cette pertinence du texte biblique nous montre que c'est toi qui l'a inspiré, Seigneur, qu'il est toujours valable et que c'est pas l'homme qui l'a inventé, c'est toi qui l'a inspiré par ton Esprit Saint à des êtres humains qui l'ont communiqué, Seigneur, et de la même façon qu'ils ont été inspirés par l'Esprit Saint, Seigneur, nous prions pour que ton Esprit vienne le décoder dans nos cœurs, Seigneur, ce texte, qu'il puisse accomplir son effet, ce pourquoi tu l'as envoyé, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Nous avons vu la semaine dernière dans le chapitre 5 qu'il était question de sujets importants. Il était question de louange, comment montrer à Dieu qu'on l'apprécie, qu'on le vénère, qu'on le loue. La louange, c'est pas simplement les chants de louange, c'est aussi la façon dont nous vivons, la façon dont nous comportons. Nous avons parlé du fait que Salomon avait bien démarré. Vous vous souvenez que Dieu lui avait donné une sagesse jamais égalée, une sagesse pratique, mais que malgré cette sagesse, le roi Salomon avait fini par s'éloigner de Dieu et que ça doit nous parler parce que nous pouvons, nous qui avons bien commencé lorsque nous sommes venus à Dieu, en venant à la personne, en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ et en nous mettant au bénéfice de ce sacrifice, en le reconnaissant comme notre Maître, comme notre Seigneur, nous étions sauvés. Mais donc nous avons bien commencé nous aussi. Nous n'avons peut-être pas reçu la sagesse pratique incroyable du roi Salomon, mais si nous avons reçu Jésus-Christ, Paul nous dit dans Colossiens qu'en lui, tous les trésors de la sagesse sont contenus. Donc en recevant Jésus-Christ, nous avons accès à une sagesse fantastique aussi. Mais le roi Salomon nous a souligné des erreurs qui font qu'on peut s'éloigner de Dieu. Il a parlé de ce qui est appelé dans la parole le sacrifice des insensés. Et je trouve cette expression très, très riche, très profonde, le sacrifice des insensés. Je pense que ça ferait un beau titre de livre, un beau titre de film. Et on a vu que le sacrifice des insensés, c'était d'offrir des sacrifices sans avoir l'intention d'obéir à Dieu. Ça nous a rappelé le prophète Samuel qui a confondu le roi Saül lorsqu'il disait avoir accompli la volonté de Dieu alors qu'il avait gardé pour lui des animaux, les meilleurs animaux, au lieu de les sacrifier à Dieu selon l'interdit qui était prononcé contre les Amalécites. On a vu aussi qu'on avait une mauvaise approche de Dieu quand dans la prière on insistait sur les choses matérielles. C'est quelque chose qui interpelle. Qu'est-ce que c'est que la réalité ? Le matériel. Il y a des réflexions très riches de l'apôtre Paul sur le fait que les choses éternelles sont invisibles, mais que les choses visibles sont finies. Les choses matérielles, en fait, quand on pousse un peu les choses, et la science moderne nous a permis de voir que ce qui semble être du solide, en fait, c'est du vide qui tourne très vite sur lui. La matière, les champs électriques qui sont créés par les électrons, en fait, si on annulait ces champs électriques, on s'aperçoit qu'un immeuble comme l'Empire State Building à New York pourrait être réduit à une petite cerise. Tout ce qu'on voit, c'est du vide, c'est du vent. Et souvent, nous, on insiste sur le matériel. Et on est fait de chair, Dieu nous a créés ainsi. Mais on a rappelé qu'il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et que toutes les autres choses nous sont données en plus. Qu'on peut tout faire par Christ qui nous fortifie. Et puis, il nous a mis en garde contre l'idée de voler, de dérober Dieu de ce qu'on lui a promis. Les vœux que l'on peut faire, on doit les accomplir. La louange doit donc être sincère et il nous met en garde ensuite contre les richesses matérielles. C'était la fin du chapitre 5, des versets 7 à 19. Il nous met en garde contre bien des aspects des richesses. Le premier mythe qu'il a déjoué, je reviens un peu en arrière parce que ça va continuer dans le chapitre 6, c'est que les richesses peuvent nous satisfaire. On se dit, si j'avais juste un peu plus d'argent, je n'ai pas ce souci devant cette facture à payer, ces réparations inattendues, alors là je serais tranquille. Mais on a toujours besoin d'un peu plus. Le deuxième mythe, c'est que La richesse résoudrait nos problèmes. La richesse ne satisfait pas, elle ne résout pas tous nos problèmes. Un troisième mythe qu'il démolit, qu'il fait exploser, c'est que la richesse amène la paix. En fait, plus on est riche et plus on a besoin de gérer notre richesse, plus il y a besoin d'embaucher des personnes pour gérer notre fortune. On voit ces stars du monde du spectacle, les Johnny Hallyday ou les grandes vedettes de cinéma. Ils doivent faire confiance à des gens pour gérer ces richesses. Et c'est source de soucis. Souvent, ces gens sont plus attirés par l'enrichissement personnel que par l'intérêt de la vedette, de l'artiste. Et puis, un des mythes qu'il démolit, c'est que la richesse amène la sécurité. On sait qu'il suffit que la Grèce fasse son Grexit pour que l'euro, la valeur de l'euro, se fonde comme neige au soleil. Du jour au lendemain, on peut être ruiné par des retours de fortune, comme l'on dit. Et il résume à la fin du chapitre 5 le fait qu'on arrive nu et qu'on va sans doute repartir de la même façon. Et donc, tout au long de ces premiers chapitres de l'Ecclésiaste, encore une fois, l'Ecclésiaste, c'est le prédicateur qui parle à l'Ecclésia, à l'Assemblée. Il semble très pessimiste. Il semble très déprimant. Et il l'est, en fait, si on prend les choses à la première lecture. Mais encore une fois, il distingue deux positions. Il y a la position sous le soleil, et puis il y a la position au-dessus du soleil, au-delà du soleil. La position sous le soleil, c'est la position de nos contemporains, ici-bas, sans prendre en compte l'existence d'un Dieu qui nous aime. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas croyant en un Dieu, mais ça veut dire que ce Dieu, on le laisse de côté. Comme disait le poète Prévert, « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Venez pas nous embêter à gérer notre vie ici-bas. » Et ça, c'est vivre sous le soleil. Mais s'il est aussi déprimant, c'est parce qu'il veut vraiment nous amener au bout de nous-mêmes, nous montrer que si Dieu n'est pas là, si Dieu ne nous aime pas, alors autant se suicider tout de suite. Alors il ne dit pas ça exactement, mais il nous dit, si Dieu n'est pas là et qu'il ne vous aime pas, la vie ne sert de rien. La vie n'a aucune valeur. Et lui qui a une vie très riche en événements, en aventures, en expériences, mais aussi en finances, probablement l'homme le plus riche qui ait jamais existé, plus riche que Bill Gates, plus riche que Crésus, plus riche que l'homme le plus riche auquel vous pouvez penser, plus riche que Rockefeller lui-même. Ces gens les plus riches n'ont pas eu une vie pleine, n'ont pas eu une vie satisfaisante. Bill Gates, on dit que sa fortune permettrait d'acheter toutes les maisons qui se trouvent à Boston. Alors, je ne sais pas si ça permettrait d'effacer le déficit de la France ou celui de la Grèce, Mais ces richesses, on pense qu'elles vont nous apporter la satisfaction, résoudre nos problèmes, nous amener la paix et nous garantir la sécurité. Et en fait, il n'en est rien. La seule chose qui peut nous amener ça, c'est d'aller au-delà du soleil. Et c'est pas très loin. C'est d'aller vers Dieu. Et on l'a répété plusieurs fois, il ne peut pas s'empêcher de nous suggérer la solution. Et là, il, à la fin du chapitre 5, il nous disait qu'en fait, Dieu nous avait donné certaines choses, et une façon de bien vivre, c'était d'apprécier ces choses simples, d'en profiter, on va lire, d'ailleurs, pour tout homme à qui Dieu a donné richesse et ressources et qu'il laisse maître de s'en nourrir, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de sa peine, c'est là un don de Dieu. En effet, quand il n'aura plus grand-chose, il se souviendra des jours de sa vie où Dieu lui répondait par la joie du cœur. La vie est courte. La vie est pleine de difficultés, mais aussi de bonnes choses que le Seigneur nous donne. Et là, il se projette à la fin de la vie et il se dit qu'en fait, quand on regarde à la fin de sa vie sur notre vie, les choses qui vont compter, ce seront les plaisirs simples de la vie que nous aurons pu connaître. La joie du cœur que Dieu nous permet. Alors, ce n'est pas encore vivre au-dessus du soleil, mais c'est toujours faire rentrer un peu en ligne de compte Dieu et se dire que c'est en lui qu'on va trouver la vraie satisfaction. Des joies simples, des joies offertes par Dieu. Et il va continuer dans le chapitre 6, encore une fois, les versets, les séparations en versets et en chapitres ne sont pas inspirées par la Bible, par l'Esprit-Saint plutôt, qu'on trouve dans la Bible, ne sont pas inspirées par l'Esprit-Saint, mais ça a été fait pour des raisons pratiques par des hommes au Moyen-Âge. Et là, il continue, il va nous dire qu'il a vu d'autres malheurs. On ne peut pas parler des richesses et des pièges de l'argent sans penser à ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament. Paul, qui a écrit près de la moitié du Nouveau Testament, nous met en garde. Il sait que au Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, on avait tendance à se dire que si seulement on avait plus d'argent, on serait heureux. Et il nous dit qu'en fait, l'amour de l'argent est la source de bien des maux. Et c'est une vérité qu'il reprend, qu'il développe dans 1 Timothée 6, 10. Il reprend ces mêmes idées. Il touche à l'idée du contentement. Dans 1 Timothée 6, on va lire les versets 6 à 10. Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a, l'idée de se contenter de ce qu'on a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, nous sommes arrivés nus, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Il rejoint les propos du Coëlette, de l'Ecclésiaste, tout comme Job, qui disait qu'il était arrivé nu et qu'il allait repartir nu dans Job 1, 21. que la gloire revienne à Dieu. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et là, il ajoute, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et là, il a ce verset terrible, car l'amour de l'argent est la racine, alors de certaines versions disent de tous les maux ou de toutes sortes de maux, je crois que c'est plus exact, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Les richesses, l'appât du gain, ce sont des choses qui causent bien des soucis, qui nous éloignent de Dieu et qui sont source de notre égarement. Si on réfléchit un peu, c'est vrai que le fait d'avoir de l'argent, ça peut nous inciter à faire confiance à notre compte en banque plutôt qu'à mettre notre foi, nos espoirs dans la bonté de Dieu, dans sa grâce. Au lieu de faire confiance à Dieu, on fait confiance à l'euro, aux euros que j'ai sur mon compte. Si je n'ai pas ces euros, je vais avoir tendance à rechercher Dieu et à mettre ma confiance en lui. Souvent, ça peut être aussi un accès à d'autres péchés, l'argent. Je suis riche, donc je peux rechercher la gloire, je peux rechercher les plaisirs. L'argent peut devenir une idole. Tout ce que je fais, c'est dans le but de rechercher à agrandir ma fortune. C'est ce que Jésus disait, qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. L'argent, si ça devient une idole dans nos vies, ça va avoir tendance à nous détourner de choses qui devraient être notre priorité, comme notre vie envers Dieu, comme notre implication dans le service pour Dieu. Ça va nous distraire de nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants, de nos familles, de nos épouses, de nos époux. On va être là à vouloir faire plus d'argent, travailler tout le temps, ne pas prendre de repos, ne pas prendre de repos en famille, ne pas passer de temps à investir dans nos enfants, dans nos relations avec les autres. Et vous avez tous connu des personnes comme ça. Moi, je me souviens d'un directeur de projet lorsque je travaillais dans l'informatique à AT&T et US West. Et j'avais un directeur de projet qui avait beaucoup de succès au travail. Il avait créé un nouveau système, il s'investissait à fond. Mais ses enfants étaient délaissés et ils ont grandi en causant beaucoup de soucis, de problèmes à cet homme. Cet homme a eu la sagesse il avait dans sa jeunesse connu Dieu. Et à un moment donné, il a réalisé ce qu'il était en train de faire à sa famille. Et il a renoncé à ses grands projets, à son succès professionnel. Il a même trouvé un emploi de gestionnaire dans une école chrétienne. Il a recentré sa vie sur Dieu. Et je le sais parce que je l'ai retrouvé sur Facebook. Et on a pu échanger. Et il était content de savoir que moi-même, j'étais dans le service du Seigneur. Et ça, c'est les côtés négatifs de l'argent, de l'amour de l'argent qui nous éloigne de Dieu. En même temps, c'est vrai que l'argent, ça a du bon. Tout dépend de la façon dont nous l'utilisons. On peut l'utiliser pour pour faire du bien autour de nous. On peut l'utiliser pour... c'est un remarquable moyen d'échange. Si vous êtes un fermier et que vous produisez du blé et que vous voulez bénir une œuvre missionnaire au fin fond de l'Afrique ou de l'Asie, à Sumatra, dans un bled perdu, ce serait difficile d'amener ou d'envoyer votre blé avec le son et les branches et tout ça. Par contre, vous pouvez envoyer, virer des fonds, de l'argent. L'argent est un médium d'échange remarquable qui est reçu partout, qui dure plus longtemps que le blé, qui va se faner, qui va se gâter. Alors, il faut faire attention parce que la façon dont on l'investit ou on le met en banque, il risque de perdre de sa valeur aussi. Mais il nous permet d'avoir une influence dans le monde. Et peut-être plus intéressant encore, c'est qu'il nous permet de ressembler à Dieu. On a été créé à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Et lorsque l'on donne de nos ressources financières, entre autres, de notre temps, mais notamment de nos ressources financières, quelque part, on imite Dieu dans sa grâce et dans sa provision, dans sa miséricorde. Si c'est fait avec joie, Paul nous rappelle que si on donne à contre-cœur, ce n'est pas la peine de donner, mais que si on donne avec hilarité, avec joie, ça va s'accumuler sur notre compte en banque céleste. On peut donner, on ne peut pas emmener l'argent avec nous, mais on peut l'envoyer en avance. Et tout ça, ça peut vraiment fortifier le ministère de l'Évangile, de par le monde. Donc l'argent, c'est l'amour de l'argent, encore une fois, qui est la source de bien des maux. On va attaquer le chapitre 6, on va lire ensemble. Je lis dans la version à la colombe, page 658. « Il est un malheur que j'ai vu sous le soleil et qui accable l'homme. » Ou qui, suivant les traductions, qui est fréquent pour l'homme. « Il y a tel homme à qui Dieu a donné richesse, ressources et gloire, à qui rien ne manque de tout ce qu'il désire, mais Dieu ne l'a pas laissé maître de s'en nourrir, car c'est un étranger qui s'en nourrira. C'est là une vanité et un grand malheur. Si un homme engendré sans fils vivait un grand nombre d'années, quelque nombreux que soient les jours de sa vie, si son âme ne se rassasie pas de bonheur et qu'il n'ait pas même pas de sépulture, je dis que l'avorton, c'est-à-dire celui qui a été avorté, est plus heureux que lui. Car celui-ci est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a ni vu ni connu le soleil, il y a plus de repos pour lui que pour l'autre. Qu'est-ce que vivre 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur? Tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Toute la peine de l'homme est pour sa bouche, et cependant son cosier n'est pas rempli. Que reste-t-il au sage de plus qu'à l'insensé? Et quel avantage à l'homme humble qui sait se conduire devant les vivants? Mieux vaut voir de ses yeux que de laisser aller son imagination. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut contester avec plus puissant que lui. Quand il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de vanité. Qu'en reste-t-il à l'homme? Qui donc sait ce qui est bon pour l'homme pendant la vie? pendant le nombre des jours de sa vaine existence, qu'il mène comme une ombre, et qui peut annoncer à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. Propos très pessimiste pour nous rappeler, pour continuer dans cette idée que les richesses, l'argent, ne peuvent pas nous satisfaire, ne peuvent pas nous contenter. Si vous avez remarqué, il y a des fois quand quelqu'un vient vous poser une question, ils ne veulent pas dire que la question les concerne directement. Et ils vont vous dire, si par exemple un homme n'a pas payé ses impôts pendant 2 ans, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Et bien sûr, on n'est pas dupe, on sait que c'est la question se rapporte à eux-mêmes. Et lorsque Salomon pose ces questions, j'ai déjà vu ça sous le soleil, j'ai déjà vu ça dans la vie, quelque chose qui accable l'homme ou qui arrive souvent. Et là, il parle de tel homme à qui Dieu a donné richesse, ressources et gloire, à qui rien ne manque de tout ce qu'il désire, mais Dieu ne l'a pas laissé maître de s'en nourrir. Et puis il dit, si un homme engendrait 100 fils, et puis il dit toutes ces choses qui en fait nous rappellent que dans 2 Chroniques 1, 11 et 12, puisque Dieu avait répondu à Salomon lorsqu'il lui avait demandé la sagesse et la connaissance afin qu'il sache conduire le peuple que Dieu lui confiait, 2 Chroniques 1, 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de ceux qui te haïssent, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais puisque tu demandes pour toi sagesse et connaissance afin de gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et la connaissance se sont accordées, je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Il est clair que Salomon pense à lui-même. Il nous dit qu'il y a des hommes qui ont tout, tout pour être heureux. C'est une expression qu'on utilise de nos jours encore. On dit « il avait tout pour être heureux ». Il était beau, riche, jeune et puissant, et pourtant il n'était pas heureux. Il dit « rien ne manque de tout ce qu'il désire ». Et puis, de façon assez injuste et étrange, il dit « mais Dieu, c'est Dieu qui est à blâmer, ne l'a pas laissé maître de s'en nourrir. Dieu ne lui laisse pas de pouvoir, la possibilité de jouir de toutes ses ressources, richesses, ressources et gloire en abondance. » Et la conclusion, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'en nourrir, un étranger. Un étranger, on n'est pas absolument sûr de à qui il pense. Est-ce qu'il pense à sa descendance? Est-ce qu'il pense à des problèmes qu'il va avoir avec ses femmes étrangères? Mais le résultat, c'est que le fait d'avoir tant de choses et de ne pas être heureux, c'est là une vanité, une futilité et un grand malheur. Les richesses peuvent être prises par quelqu'un d'autre. Et c'est souvent quelque chose que l'on réalise lorsqu'elles sont parties, lorsque la bourse a fait faillite. Lorsqu'il y a eu un grand krach boursier, l'argent que je croyais avoir, je ne l'ai pas sur mon compte en banque, où il ne vaut plus rien. Et ça, c'est un malheur qu'il a vu sous le soleil, un malheur fréquent. Il l'a vu dans sa vie, mais c'est vrai que nous-mêmes, aujourd'hui, on peut voir que Il y a beaucoup de célébrités qui ont apparemment toutes les choses dont on peut rêver. Et pourtant, ces personnes vont se suicider, ces personnes vont commettre des meurtres, vont être emprisonnées à vie. Il y a des tas de futilités qui se révèlent. Les richesses sont futiles. Et puis, il parle encore, si un homme engendré sans fils. Ce qui est intéressant, c'est que bien qu'il ait été marié à 700 femmes, alors on dit que c'était souvent des mariages diplomatiques, c'était histoire de faire des rapprochements diplomatiques avec des pays qui entouraient Israël, 700 femmes et 300 concubines, on ne connaît de lui le nom d'un seul de ses fils, celui qui lui a succédé et qui a conduit au déchirement, à la division du royaume entre le royaume du nord et le royaume du sud, Rehoboam. Et on peut imaginer qu'il a engendré bien plus que 100 fils. Il a vécu longtemps. Si un homme engendré 100 fils vivait un grand nombre d'années, quelque nombreux que soient les jours de sa vie, si son âme ne se rassasie pas de bonheur, qu'il ne soit même pas enterré dans un endroit avec dignité, à ce moment-là, celui qui n'a jamais vu le jour, celui qu'on a fait avorter. L'avorton, on pense souvent à quelqu'un de chétif. L'avorton ultime, c'est celui qui n'a pas existé parce que sa mère a procédé à un avortement. Il se dit que si on ne peut pas profiter de nos richesses, il vaudrait mieux n'avoir jamais existé. Si on n'a pas cette satisfaction de l'âme, et c'est ce qu'il évoquait à la fin du chapitre 5, si on n'éprouve pas, on ne peut pas profiter des simples plaisirs de la vie, alors tout ce qui peut nous motiver, une vie vécue dans la rapidité, dans la recherche de l'appât du gain, dans la recherche du pouvoir, de la célébrité, tout ça, ça ne vaut rien du tout. Il vaudrait mieux ne pas avoir vécu. Car celui-ci, la vie qui ne va pas plus loin que la mort, elle est absurde. S'il n'y a pas d'autre chose au-delà de la mort, s'il n'y a pas quelque chose au-delà du soleil, au-dessus du soleil, alors celui qui n'a jamais vécu est plus heureux que celui qui a vécu ainsi. Et il dit, celui-ci est venu en vain, toujours cette idée de vide, de futilité. Il s'en va dans les ténèbres et son nom reste couvert de ténèbres. On a déjà évoqué ce sujet, souvent on recherche la gloire. On veut inscrire son nom sur les tablettes de Wimbledon. Djokovic ou Federer, qui va inscrire son nom sur le grand saladier de Wimbledon. Alors le jour même, c'est un grand sujet. L'année peut-être, mais qui s'en souviendra dans 20 ans? Cette recherche de la gloire, d'être célèbre, les gens et l'histoire se moquent bien de nous. Même les rois, si on ne nous forçait pas à apprendre leur nom dans les cours d'histoire, qu'est-ce qu'on en a à faire? Donc, ne soyons pas motivés par ces choses vaines. On s'en va dans les ténèbres, notre nom reste couvert de ténèbres. Et il y a plus de repos pour lui que pour l'autre, parlant de celui qui n'a pas existé. Et il dit même, si on a une vie très longue, c'est intéressant que malgré les progrès fantastiques de la médecine, de la science, La durée de la vie humaine n'a pas beaucoup varié. La Bible nous dit que l'homme vit 70 ans, que s'il est en cas exceptionnel, il peut vivre plus longtemps. Aujourd'hui, on a du mal à dépasser 120 ans. Et il faut voir dans quel état on est à cet âge-là. Les doyens de l'humanité meurent à 114 ans. Madame Calment, c'était 120 ans. L'homme qui a vécu le plus longtemps, dont il est question dans la Bible, après Adam, qui avait vécu plus de 900 ans, c'est Mathusalem, 969 ans. Ça fait un bail. Mais là, il dit, si on vivait deux fois, encore plus que deux fois ce que Mathusalem a vécu, 2000 ans, sans jouir du bonheur. Il résonne toujours du point de vue sous le soleil. Et il montre que la vie, même si on est plein, bourré aux as, bourré d'argent, si on vit 2000 ans, ça nous fait revenir à l'an 14 de 1000 ans, à l'an 15. À l'époque où les apôtres étaient encore à essayer de commencer quelque chose, Jésus était encore vivant. Même tout ce temps-là, si on ne connaît pas la jouissance du bonheur et qu'on vit seulement sous le soleil, ça ne vaut pas la peine d'être vécu. Toute la peine de l'homme est pour sa bouche, et cependant son gosier n'est pas rempli. C'est ce que le Deutéronome nous disait, c'est ce que Matthieu nous dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. » Que reste-t-il au sage de plus qu'à l'insensé ? Quel avantage à l'homme humble qui sait se conduire devant les vivants ? On se dit au moins si j'ai une bonne éducation, si je voudrais mieux que ce SDF qui ne pense qu'il est complètement accro à l'alcool, à la drogue. Peu importe que vous ayez eu un prix Nobel ou que vous ayez vécu dans la rue, au bout de quelques années, vous serez parti au même endroit. Toujours dans cette optique sous le soleil. Puis il a ces paroles très intéressantes. Il nous dit « Mieux vaut voir de ses yeux que de laisser aller son imagination. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Voir de ses yeux, c'est voir ce qui est réel, ou du moins ce qu'on pense être réel. Plutôt que de rêver et de laisser libre cours à son imagination. On va le voir dans les chapitres 7 et suivants. Mais vous avez tous rencontré des gens qui se sont fait une idée de ce que devait être la vie. Ils se sont fait des règles de vie ou des conclusions sur la vie dont il est très difficile de les faire bouger. Parce qu'ils sont sous le soleil, ils se sont forgés leur propre philosophie de vie et vont vous dire « Vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et mal portant ». Donc ils font tout pour être riches et en bonne santé. Et c'est pas mal. Mais si vous leur parlez de Dieu, vous allez remarquer qu'ils se ferment. Ils ne veulent pas en entendre parler. On ne sait pas ce qui se passe. Je ne veux pas savoir. Ce qui compte, c'est de maximiser notre plaisir ici-bas. Et en quelque sorte, Salomon prend ce rôle de la personne qui est ferme dans ses convictions forgées en dehors de Dieu, ses convictions forgées sous le soleil. Et c'est la difficulté souvent de ces passages bibliques, c'est qu'on peut prendre le texte hors de son contexte et dire que la Bible dit qu'il vaut mieux voir de ses yeux que de laisser aller son imagination. Quand on replace dans le contexte, on voit qu'il y a une réalité, qu'il faut profiter de ce qui est réel, des plaisirs que Dieu nous donne. Mais si une autre façon de dire « mieux vaut voir de ses yeux que de laisser aller son imagination », c'est en fait, il dit « vaut mieux être réaliste qu'idéaliste ». Est-ce que votre vie, c'est de dire « vaut mieux être réaliste qu'idéaliste » ? Si tout le monde vivait comme ça, ça n'existerait pas. On est d'accord ? Le fait qu'on peut s'envoler et se retrouver en une dizaine d'heures ou dans un autre continent, ça n'existerait pas. Donc, replaçons le texte dans son contexte. Il nous dit que si Dieu n'existe pas, au bout du compte, on va être très futile, on va poursuivre le vent, mais ça ne veut pas dire que dans l'absolu, il faut toujours être réaliste et non idéaliste. Et peut-être que vous devez vous poser la question, est-ce que dans ma vie en ce moment, est-ce que je suis réaliste ou bien est-ce que je rêve encore ? Est-ce que je suis idéaliste ? Ce qui est terrible, c'est que généralement, quand on prend de l'âge, on devient plus réaliste parce que les idéaux qu'on a entretenus, on n'a pas pu les réaliser on a tendance à non seulement à se fermer sur la réalité qu'on connaît, mais on a tendance à empêcher les autres de rêver. Ce qui est terrible, c'est quand des jeunes n'entretiennent plus des rêves, des idéaux. Et moi, je vous encourage, si vous êtes jeune, à vous dire qu'avec Jésus, tout est possible. Parce que vous savez, les vraies valeurs, ce qui compte, ce n'est pas d'être riche, mais c'est de répandre la bonne nouvelle de l'Évangile dans notre pays, dans notre société, dans notre Europe, qui en a bien besoin. Et si vous êtes réaliste, vous dites, ben ça ne marche pas, hein. Regarde. Il va y avoir un concert de jazz ce soir au Théâtre de Verdure. Je ne sais pas s'ils ont arrêté, je crois que c'est jusqu'au 12. Ça va être plein à craquer. Les gens vont faire la queue. Ici, on n'occupe même pas un tiers de l'espace qu'on pourrait occuper. À quoi bon ? Et donc, voir de ses yeux, c'est une chose, mais laisser aller son imagination pour Dieu, c'est aussi une bonne chose. La créativité, les découvertes, le progrès scientifique, social, toutes ces choses-là, il faut qu'on rêve, il faut que des gens aient rêvé. Martin Luther King nous disait « J'ai eu un rêve ». Il décrivait une société où il n'y ait plus de racisme. Malheureusement, on sait que ça prend du temps, que s'il y a toujours du racisme, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique ou ici même. Mais continuons de rêver avec Dieu. Soyons des idéalistes avec Dieu. Tout est possible. Philippiens nous dit que je peux tout accomplir, je peux tout faire par la force de celui qui agit en moi. Et sans Jésus, je ne peux rien faire. Mais ne nous limitons pas. Il y a un livre que j'ai beaucoup apprécié qui dit « Votre Dieu est trop petit ». Nous avons des armes spirituelles dont le monde ne comprend pas la puissance et dont bien souvent, nous les chrétiens, nous ne comprenons pas la puissance. Nous pouvons espérer faire des choses merveilleuses. Nous pouvons espérer voir un réveil dans notre pays. On parle souvent des sociétés post-chrétiennes, du monde post-chrétien. Et j'aimais bien quelqu'un qui disait « Notre société avant le réveil ». Parce que le réveil est encore possible. Dieu le veut, Dieu veut sauver. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Et verset 10, il continue en nous rappelant, ça peut être décourageant, mais ça nous montre aussi que c'est Dieu qui est souverain et que ce n'est pas moi. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait ce qu'est l'homme. Autrement dit, il y a un Dieu et il y a l'homme. Et on a des problèmes lorsqu'on croit que Dieu n'est pas là ou que l'homme est Dieu. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que nos paroles soient donc peu nombreuses. Ça, c'était le même Ecclésiaste qui nous disait ça au début du chapitre 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Dieu a déjà tout connu. Les grandes découvertes scientifiques du 22e siècle, les hommes vont forger des noms que Dieu connaît déjà. L'ordinateur. On n'avait pas de nom, mais Dieu savait déjà ce que ça allait être. Et on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut contester avec plus puissant que lui. Encore une fois, l'homme ne peut pas se fâcher contre Dieu. On a souvent des gens qui vous disent « Ah, moi, j'ai lui, s'il est là, j'aurai deux mots à lui dire à ton Dieu. » Non, vous n'allez pas lui dire deux mots, c'est lui qui va... Le seul mot que vous pouvez lui dire, c'est que je me repens et je m'incline, je te glorifie Seigneur. Je m'agenouille, je tombe à genoux devant toi. Je crie Hosanna, sauve Seigneur. Mais il n'y aura pas l'idée que vous allez remettre les pendules à l'heure avec le Dieu vivant. Procède de la plus stupide arrogance, de la plus crasse imbécilité. C'est maintenant qu'il faut... Vous ne pouvez pas contester avec Dieu. Dieu est Dieu. Nous pouvons le remercier. La situation qui fait que... Vous pouvez remercier Dieu. Que Dieu est un Dieu bon qui nous veut du bien. Ça pourrait être un Dieu maléfique qui prend plaisir à nous faire souffrir. Il y a un être de cette nature et on sait que c'est l'ennemi de nos âmes qui veut nous éloigner de Dieu et nous qui est le créateur du mensonge, qui veut nous voir mourir, qui veut Satan lui-même. Mais Dieu, ne contestons pas avec lui, soyons reconnaissants pour son amour. Quand il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de vanité. Qu'en reste-t-il à l'homme? On aime les paroles. Il suffit de voir le succès des émissions, des débats à la télévision, à la radio. Chacun donne son avis et pontifie, donne des conclusions. Quand je vois ces journalistes et ces personnes qui, qui analyse avec tant de sagesse, entre guillemets, les situations politiques, économiques, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ne se font pas élire et mettre en œuvre toutes leurs bonnes idées? Ceux qui le font deviennent vite, très vite critiqués et voient leur impuissance confirmée. Beaucoup de paroles égale beaucoup de vide. Parole, parole, parole. C'était une vieille chanson, ça, de Dalida, pour dire que parler, c'est une chose, mais que faire ou être efficace ou avoir raison, c'en est une autre. Qui donc sait ce qui est bon pour l'homme pendant la vie, pendant le nombre des jours de sa vaine existence, qu'il mène comme une ombre? Et qui peut annoncer à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Qu'est-ce qui est bon pour l'homme pendant la vie? On n'est même pas vraiment fichu de savoir ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous. Je ne sais plus trop comment ça, l'histoire exacte, mais c'est l'idée de cet homme qui disait « Oh, quel malheur! Le fils du roi est tombé de cheval. Il s'est cassé la jambe. » Et le sage disait « Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On ne peut pas savoir. » Et puis il y avait une guerre qui s'était déclarée. Et le fils du roi n'avait pas pu partir à la guerre. Les troupes avaient été anéanties, mais le fils du roi avait survécu. Et le roi venait de dire au sage, alors c'était une bonne chose que le fils du roi ne tombe parce qu'il n'est pas allé à la guerre, il n'est pas mort. Et le sage continue en disant, qui peut savoir? Il se passe des choses dans nos vies, on souhaiterait pouvoir taper sur les touches CTRL-Z ou sur la touche Rewind, revenir en arrière sur notre DVD, notre lecteur de DVD. Et une des grandes parties de nos tourments vient de ce qu'on essaye de revenir avant l'événement qui nous a apporté des problèmes, du chagrin. Et on se dit, ah, c'est seulement... Mais dans l'acceptation de ce qui arrive et dans la confiance au Seigneur se trouve la source de la paix. Je ne comprends pas. A priori, je souhaiterais revenir en arrière, mais qui peut dire que ce qui m'est arrivé ne va pas déboucher sur de bonnes choses? Ce contrat qui n'a pas été signé, ce job que je n'ai pas pu conserver, le fait que ce soit arrivé, qui peut dire que ça ne va pas déboucher sur de bonnes choses? On ne sait pas ce qui est bon pour l'homme pendant la vie, pendant le nombre des jours de sa vaine existence. Encore une fois, il n'est pas encourageant, le Coëlette, l'Ecclésiaste. Déprimant, je te dis. Mais surtout, on voit encore une fois que il faut se replacer dans le contexte, non seulement de l'homme sous le soleil, c'est-à-dire sans que Dieu compte, sans que Dieu n'existe, ou s'il existe, on s'en moque, mais aussi au niveau de la révélation divine. Là, il avait une théologie incomplète. Nous sommes au bénéfice du Nouveau Testament. Dieu nous a révélé toute sa parole. Là, il avait un manque total de connaissances sur ce qui se passe après la mort, sur l'au-delà. 2 Timothée 1:10, il est dit que Jésus-Christ a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. L'Évangile nous apprend ce qui se passe. Le Nouveau Testament, les Épîtres, nous donne beaucoup d'informations sur le fait que au-dessus du soleil, il y a une vie qui est pleinement digne d'être vécue. Et on n'a pas à sombrer dans le pessimisme. Ça vous renvoie à la question personnelle. Est-ce que ma vie est futile ou est-ce qu'elle a un sens? Est-ce que des fois vous vous dites à quoi bon? Ça sert à rien? Est-ce que votre futur vous inquiète? Est-ce que vous avez peur du lendemain? Je me souviens, j'avais 19 ans. J'étais étudiant dans une école d'ingénieurs à Marseille. Et je me trouvais dans la rue Lodi. C'était une rue un peu spéciale parce que mon père avait sur son certificat de naissance, il était né hors les murs. Ça veut dire qu'il n'était pas né dans un hôpital ou dans une maison. Il était né dans la rue, et il était né dans la rue Lodi. Et mon père était décédé depuis peu. Et je me promenais dans cette rue, je me disais, mais il est né là, où est-ce qu'il est maintenant? Je n'étais pas chrétien encore, je n'étais pas sauvé. J'avais été élevé dans la foi catholique, mais j'avais laissé tomber, influencé par Voltaire, par mes professeurs de philosophie marxiste. J'avais tout laissé tomber. Et j'avais vraiment ce grand sentiment de vide. Et pourtant, j'étais beau, j'avais des cheveux, j'étais jeune, j'étais fort, j'avais tout pour réussir. Et pourtant, j'avais ce sentiment de vide et de dire à quoi bon. J'étais sous le soleil. Et Dieu merci. Le Seigneur m'a permis de le rencontrer un peu plus tard. Et ma vie a pris un sens complètement différent. Maintenant, ma vie est riche. Les difficultés, on attend la rédemption que le Seigneur va en amener. Il y a près d'un an, j'ai fait des exploits en sautant, en faisant du canyoning, en me cassant la vertèbre, en me retrouvant à moitié paralysé sur un lit d'hôpital. Et si j'étais resté comme à la rue Lodi, j'aurais peut-être essayé de prendre un pistolet pour me tuer. Mais là, je me disais, qu'est-ce qui va en ressortir de bon? Seigneur, je suis impatient de voir la suite. Alors, je ne l'ai pas vu encore complètement, mais de ça, j'ai pu voir des bonnes choses arriver. Vous aussi, vous avez vu Tonio vous enseigner. Vous avez vu une plus grande compassion peut-être de ma part pour ceux qui souffrent physiquement. Et donc, c'est ça qui est merveilleux lorsque on vit plus seulement sous le soleil, mais qu'on vit pour Jésus-Christ. La vie prend une dimension fantastique. Et c'est à vous de voir, est-ce que votre vie, vous la pensez futile ou est-ce qu'elle est riche, pleine d'inconnus, pleine de difficultés? Jésus n'a pas promis d'enlever toutes les difficultés, mais d'être avec nous dans ces difficultés. Est-ce que votre futur vous inquiète? Alors venez à Christ. Il va vous donner la paix que les richesses ne peuvent pas vous donner. Il va vous donner le sens d'une existence qui a du sens. Amen. Prions. Oui, Seigneur, on te remercie pour ces passages qui nous montrent comment on peut être déprimé, comment on peut trouver la vie futile si tu n'es pas dans notre vie, Seigneur. Et Seigneur, on se demande même pourquoi ces textes sont dans la parole, Seigneur, dans ta parole, mais nous savons que c'est parce que tu veux nous faire passer de ce genre de raisonnement où tout est futile, où tout est inquiétant et insignifiant, à la richesse d'une vie avec toi. Tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance, pas seulement la vie éternelle dans le futur après notre mort, mais une vie ici-bas qui est déjà une vie éternelle et qui est riche de sens, Seigneur. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Si c'est votre cas, si vous n'avez jamais fait confiance à Jésus pour lui remettre les clés de la voiture de votre vie, je vous invite à prier avec moi cette prière dans le silence de vos cœurs et à venir m'en parler plus tard, après ce culte. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai besoin de ton pardon. Je te demande pardon pour ces péchés. Je te demande de me pardonner. Jésus, je crois que tu existes, tu es mort sur la croix pour mes péchés passés, mes péchés présents et futurs. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es vivant aujourd'hui. Tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. Je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Je veux t'inviter comme le maître de ma vie, Seigneur. Je t'invite à venir nettoyer, à faire le ménage dans ma vie, Seigneur, pour me recentrer sur Jésus, pour me recentrer sur toi, sur les choses vraiment importantes, l'amour des autres, l'aide des autres, l'avancement de ton royaume, le partage de l'Évangile. Seigneur, je mets toute ma confiance en toi pour ma vie éternelle. Je comprends que ce n'est pas par les choses que je peux faire que je peux mériter ton amour. Tu me l'offres, Seigneur. Tu me demandes simplement de le recevoir. Seigneur, je le reçois. Viens me transformer. Je change de voie. Je me repens. Je veux m'éloigner de mon péché pour me tourner vers toi. Seigneur, merci d'entendre ma prière, d'y répondre, de me remplir de ton Esprit Saint et de me donner le don de la vie éternelle. Amen.